François Jocquet, bonsoir.
Bonsoir Anouk.
Je suis heureuse de vous retrouver à la sortie de votre nouveau roman de Plomb et d'Or, publié aux éditions Sabine Vespizer, une maison d'édition que je chéris particulièrement, et un livre que j'ai beaucoup apprécié. Je vais d'abord faire peut-être une petite présentation de qui vous êtes. Alors, vous avez débuté en tant que critique d'art et de cinéma, notamment pour l'événement du jeudi, le quotidien de Paris, le Globe Hebdo et Télérama. Vous êtes responsable des pages art plastique pour Nova et vous collaborez aujourd'hui à Art Press. Puis vous avez écrit, et ça me tente de lire, une biographie de Jenny Belair, figure mythique des nuits parisiennes. Vous avez également consacré un ouvrage à Gilbert et Georges qui a connu un très grand succès. Et puis vous avez écrit aussi pas mal de romans, de livres en 2018. Vous racontez votre amitié avec Valérie Lang, Je veux brûler tout mon temps. Et puis vous avez publié d'autres romans chez Sabine Vespizer. Mais je vais un petit peu raccourcir la chose et venir directement à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire le dernier roman. Alors, j'ai repris une phrase pour débuter un peu nos échanges. Une phrase que vous avez écrite dans votre livre où vous dites « Aimer lui avait appris, donc aimer une personne, à naviguer en ces eaux troubles où l'orgueil avance avec la bassesse, un défi de ne pas y abîmer son être d'artiste. » Alors il s'agit de ça finalement dans ce livre qui raconte l'histoire d'un personnage. Est-ce que j'oserais vous dire que c'est votre double sans... Enfin,
C'est mon double et c'est pas mon double.
Exactement.
Non plus. Je suis pas un artiste plasticien. Si vous me donnez un crayon et un stylo, je vous ferai un dessin affreux. Donc
voilà.
C'est l'écriture, mon truc. Quoi.
Et donc, vous racontez cette histoire de ce jeune homme qui accompagne son père, qui est son lit de mort à la Salpêtrière et qui, en fait, est issu d'un milieu plus bourgeois, plus classique, plus proche du 19e siècle que du 21e siècle et qui rencontre par hasard Christian Boltanski, qui est évidemment la personne la plus importante dans l'art, enfin le pape du monde de l'art contemporain. Et cette rencontre va déterminer son existence puisque, au départ, par fidélité et à la mémoire de son père, ce jeune François va essayer de suivre des études de droit pour finalement abdiquer et aller suivre, je dirais, des cours d'art ou se former dans l'atelier de Christian Boltanski, qui est, si je ne m'abuse, un atelier où on parle, où on donne libre cours un petit peu à ses pensées, on laisse vivre la personne qui est en nous. Et quelques années plus tard...
L'atelier est aux Beaux-Arts.
Exactement, pardon. Et donc, il va devenir finalement l'assistant. Il y a une relation quasi filiale qui se noue entre les deux et également avec l'épouse de Christian Boltanski, Annette Messager, qui est une artiste aussi très connue. Et donc, il est fasciné par leur personnalité parce qu'on voit très bien que ce sont des artistes qui ne cèdent pas au star system et qui restent un petit peu... qui gardent leur intégrité. Alors lui-même, ce François Jonas va devenir quelqu'un de très très connu, il va faire beaucoup de rencontres, il va trouver un moyen qu'il va déployer à l'infini puisqu'il va reproduire en cire des sculptures qui représentent des personnages...
Des peintures, en fait.
Exactement,
il a reproduit toutes les grandes peintures très connues de l'histoire de la peinture.
Qu'il va reproduire en cire, si j'ai bien compris, exactement. Et donc il va trouver sa manière ou son vocabulaire pour se faire connaître. Il va connaître un grand succès et c'est là où, pour moi, l'histoire commence véritablement parce que cet homme, finalement, va être victime de son succès. C'est un milieu où l'argent et la spéculation sont rois et il va se retrouver confronté avec la difficulté à être artiste, à garder son intégrité, à ne pas chercher à plaire, à éviter le fait de, à chaque fois, produire davantage. Il va être obligé d'écouter les discours un peu vides des collectionneurs. Bref, il va très très vite se retrouver dépassé et perdu par sa propre création qui est déployée à l'infini. Et ce qui est magnifique dans ce livre, c'est qu'on reste touché par cet homme qui quand même, au fond de lui, est conscient qu'il vend un petit peu son âme au diable et reste en contact avec ses maîtres qui, eux, n'ont jamais bougé leur position. Alors voilà, tout ça m'a fait envie de vous poser plusieurs questions et je vais directement rentrer dans le vif du sujet. Alors ma première question, c'est que voilà, vous êtes critique d'art, vous connaissez parfaitement le fonctionnement, la mise en avant pour comment construire finalement la carrière d'un artiste. Alors moi, ma question que je voudrais vous poser, c'est quoi le juste milieu pour y arriver sans tomber dans l'excès?
Ah, ça, c'est la question à 1000 euros. C'est, je pense que chaque artiste a sa propre voie. C'est sûr qu'aujourd'hui, c'est difficile pour un jeune artiste de commencer, dans la mesure où on peut dire que le monde de l'art a été détrôné par le marché de l'art. Mm-hmm. Et ça, c'est une chose que j'ai apprise pendant le making-of de mon livre, parce que j'ai effectivement une expérience des coulisses du monde de l'art en tant que critique d'art. Mais il se trouve aussi qu'il y a une personnalité du monde de l'art parisien qui souhaite ne pas être citée, ne pas être connue, et qui m'a aussi dit les coulisses des coulisses. Et c'est elle qui m'a dit, entre autres, qu'aujourd'hui, dans les grandes galeries, on ne parlait plus de collectionneurs, mais on parlait de clients. Mm-hmm. Ça veut tout dire. C'est malheureusement un lieu où l'argent, comme malheureusement dans beaucoup de lieux dans ce monde, est devenu roi.
Bien sûr.
Et cet artiste, si je devais lui donner un conseil, le fameux artiste, c'est d'essayer de rester lui-même malgré tout. C'est vrai qu'on est obligé de déployer des formes d'adaptation, mais il faut rester soi-même, sinon
ce que font clairement Boltanski et
Messager. Voilà.
Alors, où s'arrête l'art et où commence la vie? Vous en parlez dans le livre. N'est-ce pas justement le mélange ou l'imbrication de ces deux-là qui font la force de l'artiste?
Ah oui, moi je pense que c'est impossible de faire une frontière entre les deux. Et d'ailleurs, c'est aussi pour moi, je comprends bien qu'il y a pour beaucoup, l'art contemporain demeure une énigme difficile d'accès. J'ai toujours, en tant que critique en tout cas, je ne suis pas vraiment un critique qui critique réellement, mais je suis plutôt quelqu'un qui aime raconter des histoires et qui a toujours voulu prendre le public, la personne qui est en face de l'œuvre par la main, en lui racontant une histoire. Et cette histoire, en gros, c'est la vie de l'auteur de l'œuvre, de la vie de l'artiste, et en miroir avec son travail, comment l'œuvre a déterminé sa vie, comment sa vie a déterminé l'œuvre.
Et puis je crois que c'est là, ça vaut la même chose pour les galeristes. Et je veux dire, c'est un milieu où malheureusement, ça fait partie, j'ai l'impression, l'art. C'est-à-dire, on vit l'art, on bouffe l'art, on est tout le temps dans l'art. Il n'y a pas moyen de séparer, finalement, vraiment.
Non, bien sûr. Je pense que dans tous les
milieux... Oui.
Alors pour les galeries, c'est autre chose, parce qu'eux, ils sont la partie commerciale qui est
tout
nécessaire.
Tout à fait,
Les artistes ne peuvent pas se vendre eux-mêmes. Pour les galeristes, j'irais, tout dépend des galeries.
Exactement.
C'est vrai qu'aujourd'hui, on assiste à l'explosion de ce que j'appellerais des méga-galeries, mm-hmm. qui ont des antennes partout dans le monde. Mm-hmm. J'ai compté le nombre d'antennes de la galerie Gagosian.
Tout à fait.
C'est 20.
Tout à fait.
Et parfois dans des endroits où, comme par hasard, on trouve les riches en vacances, les
Aspen,
Kstadt, etc.
C'est des super productions et ça devient presque des multinationales aujourd'hui.
Bah, c'est ça. C'est-à-dire que autrefois, moi, par exemple, il y avait un galeriste que j'aimais beaucoup qui a fermé sa galerie, qui a juste gardé une librairie, qui est Yvon Lambert
à
Paris.
Voilà.
Moi, je me souviens très bien que jeune, j'allais voir toutes les expositions de que proposait Yvon Lambert, tous les artistes qu'il proposait. Mm-hmm. Parce que c'était un choix. Mmh. Un choix éclairé,
bien sûr,
par un grand découvreur aussi. Il a découvert un nombre d'artistes absolument incroyables. Si vous voulez, aujourd'hui, je n'ai plus la même pulsion d'aller dans une galerie, à part quelques... Il y a quand même des galeries. Enfin, là, je parle de
bien
Paris.
Sûr.
Je ne connais pas la scène bruxelloise, qui, je sais, est très vivante. Mais à Paris, il y a bien sûr des galeristes qui continuent à faire leur travail, je dirais, à l'ancienne. Donc, avec un choix.
Mmh. Et une lignée.
Et une ligne, absolument.
Exactement.
Mais... Comment voulez-vous que des galeries qui ont 5, 6 ou 20 antennes partout dans le monde avec des programmations simultanées puissent mettre en avant un choix?
Tout à fait.
C'est un peu, ça jongle, quoi. Hein.
Et puis aussi, c'est dans l'air du temps où tout doit aller vite et il n'y a plus le temps pour réfléchir non plus, malheureusement. Mais je suis d'accord avec vous, la demande est tellement grande parce qu'ils ont plusieurs galeries satellites qui fait qu'à la fin, l'artiste n'arrive même plus à suivre, malheureusement.
Et puis derrière ces méga galeries, il y a aussi les collectionneurs.
Tout à fait.
Les collectionneurs, autrefois, je ne veux pas dire que c'était mieux avant, parce que c'est vraiment un discours que je détestais quand j'étais jeune, alors je ne veux pas m'y mettre moi aussi, mais quand même.
Ouais.
Enfin, aujourd'hui, ne serait-ce que parce qu'ils démultiplient les frais fixes.
Bien
sûr. Vous imaginez, l'argent doit rentrer.
Bien sûr.
Donc l'argent... des galeristes. Et donc, et les collectionneurs encouragent aussi, parce que c'est un marché qui n'a aucune loi, aucune règle.
Tout à fait.
Contrairement au marché financier, mm-hmm. on peut faire exactement ce qu'on veut.
Tout à fait.
Donc, c'est formidable.
Tout à fait. Alors, il y a un très beau passage, justement, en parlant de galeristes, sur Eliana Sonnabend, la papesse de l'art, sur sa galerie, sur sa façon d'être avec ses artistes, ses enfants, je dirais. Parlez-nous un peu, justement, d'elle, parce qu'elle diffère vraiment. Et alors, vous dites à un certain moment l'artiste dit, « Jamais Eliana ne m'a demandé de faire quelque chose de monnayable. » C'est exactement ce que vous veniez d'expliquer, finalement.
Eliana Sonnabend, c'est une légende.
Bien sûr.
On peut dire qu'elle et son mari, Léo Castelli, sont les deux plus grands galeristes de la deuxième partie du XXe siècle, ceux qui ont tout senti, tout découvert et imposé aussi l'art contemporain américain au monde entier, avec le pop art en particulier.
Fait.
Bon, c'est très simple. Eliana Sonnabend, c'est elle qui a découvert Christian Boltanski. Juste en arrivant dans une... Elle a vu sa première exposition, elle a dit « J'achète tout et je vous expose dans 6 mois à Londres ». C'est elle qui a découvert Gilbert et Georges aussi.
Ouais.
Gilbert et Georges m'ont raconté, c'était à Bruxelles. Ils m'ont dit « Aujourd'hui, on appellerait ça une pop-up galerie, on est dans un endroit, c'était en novembre, il neigeotait, c'était les pires conditions, et il faisait une grande performance. Living Sculpture, et c'est d'après une chanson qui s'appelle Underneath the Arches. Eh bien, Eliana Sonnabend est arrivée, et elle leur a dit, exactement comme un Christian, elle a dit, écoutez, voilà, je vais ouvrir une nouvelle galerie à West Broadway, la légendaire galerie de Soho, la première. Est-ce que vous voulez en faire l'inauguration ?
Tout à fait.
Et il y en a combien comme ça ?
Je veux dire, il n'y en a plus comme ça.
Warhol, il lui a apporté des dessins. Au départ, Warhol, c'était quelqu'un qui faisait des choses dans des vitrines, des petits papillons,
publicité.
Des petites chaussures. Enfin, il fallait quand même avoir une idée, mais une vision, aussi même psychologique, je dirais, pour pouvoir imaginer qu'il allait accomplir une œuvre aussi énorme. Et c'est
tout
elle qui l'a aussi découvert. Et même Sugimoto, le grand photographe Sugimoto, Hiroshi Sugimoto, que je suis allé voir là il y a quelques mois, il y a un article ce mois-ci dans Art Press sur la visite que j'ai faite de son observatoire. Lui, il a commencé dans les années 70, et donc grand photographe, mais il avait l'intuition qu'il ne fallait pas qu'il expose dans des galeries de photographie. Et à l'époque, la photographie n'avait aucun statut, un peu rabaissé par rapport à la peinture ou à la sculpture. Et c'est une fois de plus Eliana Sonnabend qui l'a accueilli dans son écurie de star.
Et d'ailleurs, ces photos ont quelque chose de très pictural en plus de
Absolument.
Ça.
Absolument, oui, certainement. Ouais.
Mais je suis d'accord. Alors, le fameux Yvan Lambert, comme vous dites, est-ce qu'on peut encore avoir un œil libre aujourd'hui dans l'art ? On a l'impression que ça a complètement disparu. Même chez les collectionneurs, je trouve que ça a complètement disparu.
Alors là, quand même, il ne faut pas non plus être... il ne faut pas exagérer. Il y a encore des galeries, en particulier des jeunes galeries à Paris.
Oui.
Et même des galeries internationales, par exemple, je pense à la galerie de Annette Messager et Christian Boltanski, la galerie Marianne Goodman. Marianne Goodman, elle a ouvert d'abord aux États-Unis, elle a ouvert ensuite à Paris et récemment à Los Angeles. Là, je peux vraiment dire que je vais à la galerie Marianne Goodman parce que je sais que là, il y a un choix encore. Donc, c'est pas non plus tout n'est pas perdu.
Tout à fait.
Il y a aussi toute une génération de galeristes qui ont ça dans le sang, dans la peau. Bon, ils doivent faire avec l'époque, mais quand même...
Mais qui suivent vraiment une ligne. Je crois que ça, c'est le plus important. Tout à fait. Alors, on vit aujourd'hui dans un monde où règne la peur de l'autre, ce qui nous rend évidemment moins accessibles au monde. Comment faire justement pour ne pas s'isoler et rester dans la vie ? Et finalement, l'art n'a-t-elle pas perdu cette qualité en devenant d'une certaine façon tellement élitiste ?
Alors, oui et non quand même. Parce que d'abord, il y a toujours, les artistes font toujours prendre des lithographies. Même les grands artistes qui sont accessibles. Évidemment, il faut avoir un petit budget, mais vous pouvez acheter des œuvres d'artistes importants.
Tout à fait.
Avoir donc une œuvre... une édition, mais qui est comme une œuvre originale, magnifiquement imprimée chez vous. Il y a aussi la photographie qui demeure très accessible. Donc, c'est une grande question que vous posez là, mais je n'ai pas vraiment de réponse non plus. Je sais pas.
D'accord. Jeff Koons, par contre, lui, il a compris que pour réussir, il doit créer un produit acceptable et être aimé par le public. Et aimé par le public, son produit, il est devenu comme ses collectionneurs. Et c'est ce que vous dites, il a retiré tout l'aspect romantique de l'artiste. Boltanski est son antithèse, un artiste presque marginal par rapport au pouvoir et au monde. Où se situe justement cette frontière, cette fameuse frontière entre les deux extrêmes?
Jeff Koons, voilà encore un artiste qui a été découvert par Eliana Sonnabend. Et l'arrivée de Jeff Koons dans la galerie Sonnabend
a
été un moment de grand doute pour Christian Boltanski, qui là ne comprenait pas ce qu'elle avait en tête.
Il le dit dans le livre.
Mais ça l'a intrigué quand même. Et comme c'était quelqu'un de très intelligent, il a essayé de comprendre.
Mais bon, il y a un génie quand même. On aime ou on n'aime pas Jeff Koons, mais il y a quand même une forme de génie dans son travail. Je ne suis pas fan, je me souviens les œuvres dans les années 90. C'est quand même, je veux dire, il nous a bluffé, même si ce n'était pas très profond, mais c'était la culture américaine, pardon de parler et de réduire ça à ça, mais voilà.
Oui, il était un artiste qu'on peut qualifier de pop.
Exactement.
Mais dans le pop, par exemple, de Andy Warhol,
exactement.
Il y a une profondeur.
Oui.
Jeff Koons, délibérément, c'est la surface.
Oui. Hein.
Mais il l'assume. Et moi aussi, je suis ambivalent. Hein.
Oui.
Quand je suis allé voir l'exposition, il y a une grande rétrospective au Centre Pompidou. C'est vrai que c'est séduisant. Mais après, j'essaye de voir ce qu'il y a sous la couche, là. Je vois juste du vide, en fait.
Je suis d'accord.
Et ses dernières œuvres, là, vraiment, je ne comprends plus. Donc, écoutez, Koons, c'est une question quand même. C'est un symptôme aussi.
Ça reste une énigme,
de l'époque.
Ouais. Je crois que sa seule force, peut-être, c'est justement de se mettre en avant comme un artiste où il n'y a pas un message derrière et de ne pas jouer dans le cinéma, finalement,
Celui qui répondra mieux que moi, ce serait Christian Boltanski. Christian Boltanski dit que les collectionneurs sont souvent des grands-enfants, comme sont souvent les gens qui sont dans la finance, dans l'argent, ils restent des grands-enfants. Alors, il dit, alors Koons, il leur fait des choses, des jouets qui sont sympas, ça ne va pas les ébranler dans leurs convictions. Et il a fait des petits trains, il a fait des nounours. Il ne les dérange pas.
Exactement. Voilà. Exactement. Alors, les textes des critiques en vue qui sont supposés accompagner les expos. Alors, moi, c'est quelque chose qui m'a souvent posé problème parce que quand on les lit avant l'expo, ils donnent souvent ou quasi le mode d'emploi de comment lire l'expo. Ne sont-ils pas d'une certaine façon réducteurs pour nous, spectateurs enfermés dans la vision du critique, ne pouvant être compris que par les initiés?
Alors, écoutez, justement, moi qui suis un ancien critique de cinéma, par exemple, je ne lis jamais une critique avant d'aller voir un film.
D'accord.
C'est après. Après, je vois ce qu'ils ont en tête. C'est un peu comme ça, intuitivement, je sens que, je sais à peu près quand, parce que je lis, par exemple, les gros titres, par exemple, et je vois à peu près que ça va être un sujet qui va m'intéresser, des acteurs que j'aime, un metteur en scène que je suis, de toute façon. Et je dirais que c'est la même chose pour l'art contemporain. Par exemple, simplement, je reviens à l'Observatoire des Nouras de Sugimoto, parce que j'ai vraiment ça en tête, et je viens d'écrire ce texte. S'il donne un petit livret à l'entrée, et j'ai des amis qui l'ont suivi comme ça, pas à pas, en lisant ce qu'il y avait derrière chaque pierre, chaque truc comme ça. Et bien, ça détruit tout. J'ai traversé ça comme ça, en ayant conscience que je ne captais pas tout, mais que je pouvais faire, je captais moi ce que je ressentais. Voilà. Et ensuite, je l'ai lu et ça m'a apporté beaucoup de choses.
À l'inverse, c'est marrant parce que j'étais voir hier l'expo au Wills de Jeff Gass, où là, j'ai commencé sans lire et ça m'a manqué de ne pas lire parce que j'étais perdue, même si j'arrivais à remettre l'artiste dans son époque avec les différentes matières qu'il utilisait à l'époque et qui finalement représenteraient les années 70 dans tout ce vocabulaire. Enfin, je sais pas, ça m'a manqué de ne pas lire. Le texte, voilà.
Il y a une formule de Gilbert et Georges que j'aime beaucoup, il parle de l'art contemporain comme de la malédiction d'un art qui ne peut être compris que par les initiés.
Ouais, C'est tout à fait vrai. Ouais. Exactement, c'est tout à fait vrai. Alors, il est très difficile, on le voit dans le livre, de ne pas être suiveur, de ne pas être copiste. Et quand ce François devient lui-même artiste, il retient la leçon de Boltanski. Cependant, pour moi, l'art, mais aussi la mode ou n'importe tout ce qui est artistique, n'est pas un éternel recommencement, pardon, mais plutôt une répétition altérée, une reprise de ce qui existait déjà. Alors finalement, on se pose tous les mêmes questions. Est-ce qu'on n'est pas confronté aux mêmes questions existentielles et est-ce que ce n'est pas à chaque fois un nouveau dialogue qui reprend l'ancien, mais qui en redonne une nouvelle version, qui va en redonner une nouvelle version, etc.
On peut dire que depuis que l'homme est l'homme, les questions existentielles sont demeurées les mêmes. On oui. sait qu'on va tous mourir. C'était quand même des... Mais je ne sais pas comment vous répondre. Je pense qu'un artiste doit savoir ce qui s'est passé avant lui.
Oui, doit connaître.
Doit connaître. Et ça, je trouve que c'est un peu un travers des écoles d'art aujourd'hui, de faire l'impasse sur le passé. Ne serait-ce que pour ne pas se répéter.
Tout à fait.
Par exemple, les choses les plus simples à voir, par exemple, la photographie. La photographie, vous voyez tout de suite si c'est quelqu'un qui apporte quelque chose. Parce que c'est comme ça, ce qu'un artiste doit faire. C'est apporter quelque chose de nouveau dans ce grand questionnement qui n'a pas de temps. Et voilà, donc ça c'est un petit peu dommage. Je pense que je sais pas comment c'est ici. Là, je vais aller tout à l'heure à la Cambre rencontrer des étudiants et je leur poserai la question de savoir ce qu'ils savent de l'histoire de l'art.
Tout à fait.
Ben, ne serait-ce que ça, enfin individuellement, chacun sans être artiste doit savoir ce qui s'est passé. Quelles ont été justement les réponses époque après époque
Mais voilà. Ça vaut pour les collectionneurs aussi, finalement.
Pour les collectionneurs aussi.
Quand on achète, de savoir...
Si on achète pas une réplique de...
Exactement.
Bon, par contre, Christian Boltanski, il a créé une œuvre qui n'a rien à voir avec, le passé.
En fait. Je suis d'accord.
Il fait naître... Il creuse les ténèbres. Bon, c'est quelqu'un qui a été quand même très... Il a été très influencé par le récit de la Shoah. Mm-hmm. Puisqu'il a entendu ça dans sa maison quand il était enfant. À une époque où on avait remis un couvercle après-guerre sur la tragédie absolue qui s'était passée. Donc, même ça, il n'en parlait pas vraiment non plus de ça, parce qu'il voulait que ça reste ouvert. Et c'est sûr que quand on voit ces installations avec des tas de vêtements,
tout à fait.
On ne peut pas penser à autre chose qu'à ce qui s'est passé.
Oui, il arrive à créer une fiction, finalement, à partir de choses qui sont déjà existantes, mais en faire un nouveau langage. Et ça, sa force, finalement.
Et aussi, sa force, c'est de rester dans une forme de bricolage.
Oui.
Lui, justement, c'est l'anti-Jeff Koons.
Oui.
C'est absolument fini, où il faut des milliers d'heures de travail de technique. Lui, c'est du bricolage. Et du bricolage sort la poésie.
De l'authentique.
Et de la poésie.
Alors, dernière question. Koons, Catalan et Hoest ont des dizaines de petites mains qui font le travail à leur place, un peu comme Vasari à l'époque. Il y a d'un côté le concepteur et puis il y a le réalisateur. Est-ce que pour vous, cela enlève quelque chose dans la valeur du travail de l'artiste? Est-ce que le concept prime davantage sur la réalisation?
Oui, vous avez raison. C'est Marcel Duchamp qui a théorisé le concept, donc la séparation de la main et de l'esprit. Non, moi, ça me pose pas de problème. Enfin, de toute façon, toutes ces œuvres, elles sont faites vraiment sous l'impulsion, avec le contrôle absolu de l'artiste.
Fait.
Donc, c'est pas vraiment forcément fait de ses propres mains, mais ça demeure leur art.
On est d'accord. Merci beaucoup, François.
Merci à nous.
Et on espère vous retrouver pour un prochain roman.
Oui.
À très bientôt, à la semaine prochaine. Merci beaucoup.